le magazine des Nations Unies. Le gouvernement ainsi que les autres parties prenantes au processus électoral doivent faire preuve de responsabilité afin que le dialogue et la période cruciale préélectorale et électorale se déroulent dans les normes et le respect des droits de l'homme. Appel lancé par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme jeudi à Kinshasa au terme d'une visite de 4 jours en RDC. Zeid Ra'ad Al Hussein est l'invité de ce dimanche. À la une également de ce magazine, la célébration cette semaine de la journée internationale Nelson Mandela. À cette occasion, un message fort du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC aux jeunes Congolais. Le général Jean Bayo s'en va, le commandant adjoint de la force de la MONUSCO a dit ses adieux après 3 ans de service. C'était lundi dernier au cours d'une cérémonie au siège de la mission. Retour sur l'événement dans un instant.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Cérémonie d'adieu au général Jean Bayo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, arrivé fin mandat. Après 3 ans passés à ce poste, c'était le quartier général de la MONUSCO, en présence du commandant de la force de la MONUSCO, du chef d'état-major général des FARDC, le général Amouli, des officiels de la force de la MONUSCO et de l'ambassadeur de la France en RDC. Jean-Pierre Lali Coco a assisté à cet événement. Voici son reportage.
C'est dans cette ambiance rythmée que le général Bayo dit au revoir aux forces de la MONUSCO ainsi qu'à tout le peuple congolais. Dans son allocution, il donne d'abord le sens qui a caractérisé son action et qui devrait l'être pour tous les casques bleus qui étaient sous son commandement.
Seule l'action effective de ces militaires et les résultats que nous leur demandons d'obtenir sur le terrain donnent un sens à notre présence dans l'exécution d'un mandat de protection des civils efficace et de neutralisation des groupes armés.
Aux autorités et à la population congolaise, le général Bayo exprime toute sa gratitude.
Je tiens bien sûr à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude. Tout d'abord aux autorités et à la population de la République démocratique du Congo. En toutes circonstances, je me suis senti accueilli, conseillé et guidé dans notre besoin de bien comprendre les situations, la nature des problèmes, les enjeux et les opportunités. J'ai aussi été impressionné par la générosité et la résilience des populations soumises pour certaines depuis des années aux épreuves de la guerre, des déplacements et de l'insécurité, mais aussi à leurs attentes très claires en matière de sécurité.
Devant la presse, le général français rappelle d'excellents souvenirs de son mandat en RDC.
Parmi les points très importants que je veux souligner, quand nous avons appuyé les FARDC pour libérer Kiwanja contre les M23, on a vraiment eu un sentiment de libération. On a vu une population qui était libérée. C'était un sentiment extraordinaire, libérée d'une occupation. Et ce genre d'espoir, il faut qu'il soit maintenant exercé partout.
Mais aussi un regret.
Et je garderai un grand regret, celui de ne pas avoir fait plus pour épargner des vies innocentes.
Mais auparavant, le lieutenant général Amouli, chef d'état-major chargé des opérations et renseignements des FARDC et le forcé commandaire de la MONUSCO, le lieutenant général Derrick Ngwebi, ont loué les services du général Bayo au profit des populations congolaises. Général Amouli.
Que nous les félicitons aujourd'hui, lui qui vient d'atteindre la fin de son mandat en République démocratique du Congo, après avoir efficacement œuvré dans la perspective de la consolidation de la paix au profit de la population congolaise.
Le futur poste du commandant Jean Bayo n'est pas encore connu.
Mandela Day, la journée internationale Nelson Mandela, c'était lundi dernier, le 18 juillet, à Kinshasa. Cet événement a été célébré pendant 4 jours d'affilée par diverses manifestations, dont la cérémonie officielle le premier jour, à la place de l'indépendance, ex-gare centrale. Honoré Missenga revient sur cette journée pour le MAG UN.
Il n'y a pas eu de lundi matin à la place de l'indépendance, mais l'ambiance était à la fête avec à l'animation la fanfare kimbanguiste. Le gouverneur de Kinshasa a représenté le gouvernement congolais à cette manifestation à côté de l'ambassadeur sud-africain, tandis que Dr Mamadou Diallo, lui, a représenté les Nations Unies. Les autres membres du corps diplomatique et des agences onusiennes en RDC ont trouvé le trio à la tribune d'honneur où avaient également pris place d'autres invités recrutés notamment dans le monde des affaires et de la société civile.
Et du côté gauche de la tribune, une vingtaine de jeunes filles venues de toutes les provinces du pays, candidates au concours de beauté Miss Congo 2016, en rajoutaient au décor. Les discours officiels ont été précédés par les hymnes nationaux de la RDC et de la RCA. Le gouverneur de Kinshasa, l'ambassadeur d'Afrique du Sud et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC se sont relayés sur le podium. Tous, chacun dans ses termes, ont loué les vertus de Madiba, homme de dialogue, esprit de paix, d'humanisme, de solidarité, défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. Et de ces messages, une interpellation de la jeunesse congolaise, celle de Mamadou Diallo.
Nelson Mandela aimait toujours dire, je le paraphrase, « Nul n'a le monopole du patriotisme. Chacun peut aimer son pays et le servir, là où il se trouve, là où il vit, là où il travaille. » Aux jeunes Congolais et aux jeunes Congolaises qui nous écoutent, je peux leur dire, vous n'allez tous pas devenir des héros, mais vous pouvez être un héros pour votre communauté, pour votre commune, pour l'endroit où vous vivez, pour votre école, pour votre pays, afin que ce grand et beau pays que Dieu vous a donné puisse réaliser son potentiel et permettre à tous les fils et à toutes les filles de ce pays de vivre à l'abri du besoin, dans la paix, dans la sécurité et la liberté.
Après les discours officiels, le public a été convié à la visite des stands où étaient exposées différentes œuvres culturelles et des photos de l'icône africaine. Le programme de la journée s'est poursuivi avec une visite de l'orphelinat de Matumaini à Kingabwa dans la commune de Limete. Mais la célébration de la journée Mandela s'est étendue sur trois autres journées à Kinshasa jusqu'au 21 juillet avec d'autres activités, dont une campagne de collecte de fonds au profit des démunis.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
2283 cas de violation des droits de l'homme enregistrés au premier semestre 2016 en RDC. C'est en tout cas ce que révèle le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH. José María Aranaz, directeur de ce bureau, fait le point sur les différents aspects de ce rapport. Il s'entretient ici avec Jean-Pierre Lali Coco.
José María Aranaz, bonjour.
Bonjour Monsieur Lali et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Je voudrais commencer avec vous avec une question d'actualité. L'enquête sur les 6 corps retrouvés à la rivière Ndjili à Kinshasa commence à donner ses secrets. Il s'agirait de bandits pourchassés par la population selon le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Le bureau conjoint a participé aussi à cette enquête. Qu'est-ce que vous en dites?
L'enquête est encore en course. À ce moment, il y a des enquêtes qui se font en parallèle de manière officielle par les procureurs de Matete et par les procureurs de Ndjili, comme le procureur général de la République et M. Flori Kabembe a annoncé hier. Nous avons notre propre enquête. À ce moment, nous savons qu'il y a au moins 7 corps qui ont été retrouvés, les premiers les 30 juin, et autres 6 corps qui ont été retrouvés les 3 juillet. À ce moment, on ne veut pas spéculer quelles sont les raisons et les causes des morts, s'ils sont des délinquants, des coulounas ou non, mais ce qu'on veut dire, c'est que nous sommes disponibles pour, comme on a déjà offert aux autorités, pour apporter notre expertise et supplémenter l'expertise de l'enquête médico-légale pour faire la lumière de cette affaire. Et même s'ils sont les délinquants, il faut respecter les courses de la loi et éviter en tout cas la justice populaire.
Pour une précision, on peut dire que l'enquête qui se mène au niveau de la cour d'appel de Matete est différente d'une autre enquête que les bureaux conjoints appuient.
L'enquête officielle sera toujours faite par les autorités nationales. Nous sommes ici pour compléter et donner l'appui aux autorités nationales pour faire la lumière et apporter l'expertise additionnelle s'il y a des besoins et s'il y a la sollicitude des autorités.
Le bureau conjoint vient de publier un rapport semestriel sur l'état des droits de l'homme en RDC. Quelles sont les grandes tendances de ces rapports?
Oui, comme toujours, ces rapports étaient préparés dans le cadre du mandat donné par les Conseil de sécurité à la MONUSCO et au Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme a été partagé avec les autorités nationales pour leur action pertinente. Le rapport a documenté au moins 2343 violations des droits de l'homme dans le territoire de la RDC depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de juin. Ça veut dire une baisse en comparaison au dernier semestre de l'année passée et une moyenne de 389 violations chaque mois.
Quelles sont les provinces les plus touchées par ces violations des droits de l'homme?
Comme toujours, les provinces de l'Est ont la majorité des violations des droits de l'homme perpétrées dans le cadre du conflit, mais ce qu'on a constaté, c'est une augmentation des violations des droits de l'homme dans les centres urbains parce qu'il y avait une augmentation très grande des violations des droits de l'homme qui sont des relations avec les processus électoraux.
Est-ce que vous pouvez citer quelques centres urbains? Est-ce que c'est Kinshasa qui vient en premier lieu ou bien c'est Lubumbashi ou notre ville?
On a documenté des violations à Goma, à Lubumbashi, à Kinshasa, mais aussi dans les autres centres urbains comme Kisangani, et comme Kalemi, comme Bandundu, et ça c'est préoccupant. Une autre préoccupation qu'on a constatée dans ces rapports, et il faut faire attention à ça, c'est que la grande majorité, 65% des violations des droits de l'homme, étaient commises par les agents étatiques, PNC, les FRDC, la ENR, et aussi que dans le cadre du conflit armé, la majorité des violations des droits de l'homme étaient commises par les groupes armés nationaux, les FRPI, les Mai Mai, les NDC
et les FDLR.
Parmi les groupes armés étrangers, les FDLR, les ADF et les LR continue comme les principaux groupes armés auteurs des violations des droits de l'homme.
Nous avons ce rapport, Monsieur Aranaz. Est-ce que vous pouvez donner quelques points positifs que vous avez rencontrés dans l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo?
Bien sûr, on a documenté 79 membres de la FRDC et 35 membres de la PNC qui ont été condamnés pour les violations des droits de l'homme dans ces périodes. Ça, c'est dans la lutte contre l'impunité. C'est indicatif des efforts des autorités pour éradiquer les violations des droits de l'homme commises par les agents étatiques. Dans ce cadre, notre bureau a partagé l'information des violations des droits de l'homme de manière régulière avec les autorités, mais aussi on a donné l'appui à 8 missions d'enquête conjointes et à 4 missions d'audience forense pour donner l'appui aux investigations par les autorités dans le cadre des violations des droits de l'homme.
Monsieur Aranaz, nous approchons à la période cruciale qui est dite préélectorale. Bientôt, ça sera aussi les élections. Et votre bureau a un grand rôle à jouer. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à la population congolaise qui vous suit en ce moment sur les antennes de Radio Okapi?
Le respect des droits de l'homme qui sont consacrés à tous les acteurs du processus électoral, les autorités, l'opposition, les membres de la société civile, des médias, c'est essentiel pour la crédibilité du processus électoral et des dialogues nationaux. Sans respect des droits de l'homme, il n'y aura pas de processus électoral ou de dialogue crédible. C'est ça qu'on travaille ensemble avec les autorités pour renforcer un cadre de respect des droits de l'homme et pour tout.
Il faut respecter les droits de l'homme dans le processus électoral. C'est avec ces mots qui sont très importants que nous mettons fin à notre entretien. Et monsieur le directeur, je vous remercie.
Merci à vous, merci à Radio Okapi pour l'intérêt dans les matières des droits de l'homme et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi. À la prochaine.
Missions de protection des civils de la police de la MONUSCO enregistrées dans le cadre de la résolution 2217 du Conseil de sécurité de l'ONU. Information livrée mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. 23 missions dans 23 localités du pays. À l'analyse de ces missions, il apparaît que la situation sécuritaire générale de la RDC reste fragile et en cause l'activisme des groupes armés, les conflits intercommunautaires ainsi que le banditisme classique. Autre information de la conférence de presse de mercredi dernier 5 projets à impact visible et direct ont été retenus dans le cadre du programme 2014-2017 des volontaires des Nations Unies. Il s'agit des projets ci-après, campagne de nettoyage, de sensibilisation à l'hygiène et de rénovation d'une école de la périphérie de Kinshasa, promotion de l'alphabétisation à Dongo, activité génératrice de revenus dans un orphelinat à Goma, appui à l'assainissement de la ville de Kisangani et forum sur le leadership estudiantin à Goma. Enfin, 10 organisations communautaires de quelques pays du monde ont reçu le prix Ruban Rouge 2016 pour leurs activités mobilisatrices engagées contre l'impact de l'épidémie du sida. L'ONU SIDA RDC, qui donne cette information, précise que le prix Ruban Rouge 2016 a été attribué à l'occasion de la tenue de la session spéciale de la 21e conférence internationale sur le sida à Durban, en Afrique du Sud, du 18 au 22 juillet 2016. Les organisations primées viennent du Burundi, du Mexique, du Belize, du Kenya, du Nigeria, de la République islamique d'Iran, du Népal, du Chili et de la Nouvelle-Zélande.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Zaïd Rahad Al Hussein, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a effectué du 18 au 21 juillet une visite de travail en RDC sur invitation du gouvernement congolais. Il est donc l'invité de ce magazine. Monsieur Hussein évoque ici les questions liées aux droits de l'homme en période préélectorale, ainsi que les engagements pris par le gouvernement pour le respect des libertés fondamentales en cette période. Il répond aux questions de Jean-Pierre Lali, Ikoko.
Monsieur Hussein, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes en visite en République démocratique du Congo, sous l'invitation du gouvernement congolais. Dans quel cadre se situe alors votre visite ici?
Mr. High Commissioner, you're the High Commissioner for Human Rights. You are here in the DRC within the framework of an invitation from the government of...
Le pays traverse une phase critique de son histoire. En tant que bureau, nous célébrons le 20e anniversaire de notre présence dans le pays. Et le bureau est, voyez-vous, le plus grand que nous avons à travers le monde. Il va donc sans dire que lorsque nous recevons une invitation du gouvernement congolais, nous nous devons de venir. Et l'intention donc de cette visite était d'écouter tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés. Et après les avoir écoutés, nous serons à même de nous faire une idée et de parvenir à des conclusions en matière des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Monsieur Hussein, vous avez commencé votre visite à Goma, vous êtes rendu à Bukavu, vous avez visité l'hôpital Panzi, vous avez eu l'entretien avec le docteur Mukwege, et puis maintenant vous êtes à Kinshasa, et comme vous l'avez dit, vous avez rencontré les représentants des ONG des droits de l'homme, les autorités provinciales et même nationales, et peut-être vous allez aussi rencontrer le président Kabila, vous l'avez souhaité. Alors, quelle est la teneur de vos rencontres que vous avez eues avec ces gens?
I'd like to make 3 points. I think the first point is that...
Alors, au terme de cet exercice, je voudrais faire un point, un seul point. Il convient de savoir que seules les victimes des violations des droits de l'homme déterminent donc le futur de cette question dans un pays.
Governments lead, but they must...
La deuxième chose, il convient de savoir que dans les pays, les gouvernements mènent, mais les gouvernements doivent diriger en faisant attention aux victimes de ces phénomènes et à leur peuple. Ainsi donc, si jamais il y a un dialogue dans le cadre du processus électoral, il convient de savoir que le respect des libertés fondamentales et le respect des libertés d'assemblée pacifique doivent être observés.
Also, just there must be great responsibility.
Une autre chose, avec votre permission, toutes les parties prenantes dans le processus doivent faire preuve de responsabilité et faire preuve également de retenue. Au cours de mes échanges, des promesses m'ont été faites et des engagements ont été pris. J'attends de voir que ces engagements soient traduits dans la réalité et je salue la volonté qui a été exprimée en la matière.
Les engagements précisément sur quoi, sur quel point?
As I explained in the press conference, on a number of issues, the government said...
Et comme je l'ai dit au cours de mon point de presse, le gouvernement a exprimé sa volonté de collaborer avec nous sur un certain nombre de points, y compris, j'ai mentionné que je détenais une liste de personnes, de prisonniers politiques, et le gouvernement a exprimé sa volonté d'écouter sur ce point.
We made made a strong case for.
Un autre point qui a fait l'objet de nos discussions avec le gouvernement porte sur l'utilisation de la force non létale. Et là-dessus, j'étais ravi de savoir que le gouvernement nous a informé à être en train de développer des mécanismes et des instruments juridiques sur la gestion de l'utilisation de la force non létale. Et j'attends de recevoir du gouvernement tous ces instruments et que nous allons donc examiner en profondeur. Le troisième point qui a fait l'objet de nos discussions également porte sur le transfert des personnes actuellement en détention dans les points de détention de l'Agence nationale de renseignement pour que ces personnes soient envoyées dans des lieux de détention civile où leur cas sera examiné par des magistrats civils. Et là-dessus, j'ai reçu promesse ferme du ministre de la Justice de le faire. En général, nous avons observé une ouverture de la part des autorités gouvernementales. Mais il convient de mentionner que, par le passé, il y a eu des situations où on a collaboré, parfois en s'entendant, et parfois il y a des cas de désaccord. Mais le plus important est qu'au sorti de ce processus et de cette discussion, nous puissions trouver des voies et moyens pour apaiser la tension en République démocratique du Congo.
Oui, Monsieur Hussein, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière pour parler de cette liste. De quelle liste il s'agit? Ça, c'est de un. Et combien de gens qui sont concernés à cette liste, si ce n'est pas un secret? Et puis, quand est-ce que vous allez la publier?
Il convient de savoir que cette liste-là doit être examinée au préalable et nous allons procéder à son examen en profondeur. Et je tiens à vous mentionner ici que je n'ai pas dit que cette liste allait être rendue publique, même si à un moment donné, au cours de l'exercice, ces listes pourraient être publiées. Le plus important ici, voyez-vous, est que les personnes qui sont actuellement aux arrêts soient élargies et libérées. Et en temps opportun, nous espérons que ces listes seront rendues. Des mesures seront prises pour que ces personnes-là soient élargies, en effet.
Dernière question, vous avez parlé des droits de l'homme ici en République démocratique du Congo. Selon les récents rapports de votre bureau ici en RDC, la situation des droits de l'homme n'est pas du tout brillante à l'approche des élections. Alors, que peuvent attendre les Congolais de votre commission internationale des droits de l'homme en ce qui concerne justement cette période cruciale des élections en République démocratique du Congo?
Well, to exercise great responsibility.
Ce que j'attends des uns et des autres, c'est de faire preuve de responsabilité. La question des droits de l'homme est centrale. La question de l'ouverture de l'espace public l'est tout aussi. Un processus de dialogue est important. Il convient que les différents acteurs fassent donc preuve de responsabilité, et le plus important est que le respect des droits de l'homme et les débats se passent dans la stricte observation des normes internationales en la matière.
Monsieur Hussein, merci de nous avoir accordé cette interview et Radio Kapi vous remercie de votre disponibilité.
Merci beaucoup. Merci.
Lutte contre le paludisme dans la Chuapa, démarrage depuis lundi dernier à Boende de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Ces moustiquaires, dont du gouvernement américain, agissant à travers USAID et le Fonds mondial, seront donc distribués à tous les foyers de 12 zones de santé de la province. Paul Richard Malengela pour les détails.
D'après le chef de division provinciale de la santé à la Chuapa, le paludisme vient en tête de maladies devenues endémiques dans la région. C'est pourquoi a indiqué le docteur Jean-Paul Matela, cette campagne de distribution des moustiquaires reste gratuite. Elle se fait à travers les 556 sites de distribution et concerne toute la population répartie en 385 331 ménages, lesquels sont catégorisés suivant leur taille respective et reçoivent des moustiquaires moyennant un jeton qu'ils avaient reçu lors de l'enregistrement à travers les 12 zones de santé de la Chuapa. Toutefois, ajoute notre source, pour les cibles spécifiques, à savoir les prisons, les couvents des religieux, les internats, les hôpitaux et centres de santé qui sont enregistrés, on remettra une moustiquaire par lit et aucun personnel de cette structure n'est autorisé d'emporter la moustiquaire chez lui afin qu'elle reste servie à ceux qui viendront après. Par ailleurs, au lieu de 4 jours initialement prévus, l'opération pourrait s'étendre jusqu'à 1 mois, a ajouté le docteur Matela. Raison avancée, le mauvais état des routes qui rend difficile l'accès à certains sites de distribution. Il salue néanmoins l'appui de la police nationale qui sécurise les équipes pendant le transport, l'entreposage et la distribution. Bondaka, Porsche Malengue, la Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question Nations Unies.
Et nous avons sélectionné pour vous une question sur la situation sécuritaire à Kibirizi, au Nord Kivu. Suivez plutôt.
Je suis Dido Kayembe, journaliste au Channel Télévision, mais également de journal Info Populaire. Ma question concerne la situation à Kibirizi, mais également à Nyanzale, où depuis le début de la semaine, il y a toujours des exactions là-bas. Et la population acquise, la MONUSCO, d'être très passive par rapport à ces exactions de rebelles et n'agissent pas. Qu'est-ce que la MONUSCO peut dire par rapport à ça?
Vous savez que la situation à Kibirizi est complexe. Il s'agit de violences intercommunautaires et cette question n'est pas que militaire. Toutefois, depuis le début de cette situation, la force de la MONUSCO basée à Rwindi et Nyanzale, puisque Kibirizi est entre Nyanzale et Rwindi. Donc chaque jour, la force de la MONUSCO déploie des patrouilles à Rwindi en appui aux FARDC qui sont sur le terrain. Et pour l'instant, c'est ce que nous faisons. Nous envoyons des patrouilles robustes pour appuyer les FARDC afin de sécuriser la population civile en attendant que les autres acteurs impliqués dans le processus de paix s'engagent.
Magazine des Nations Unies, Portrait du jour.
Je m'appelle Agathe Mpona Minga, mais on m'appelle Agathe Mpona Elema, du nom de mon mari. Je suis donc mariée et mère de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Comme formation, j'ai fait information et communication aux facultés catholiques de Kinshasa, actuellement UCC, Université catholique du Congo. Actuellement, à la Radio Okapi, je travaille comme reporter et animatrice pour le service des programmes de Radio Okapi. Je fais différents reportages, en général sur la thématique des femmes, mais aussi d'autres reportages et j'anime l'émission Découverte en semaine. Je travaille à la Radio Okapi depuis presque 10 ans maintenant. Concernant mes tâches quotidiennes, bon, comme je l'ai dit, je suis reporter et animatrice, donc quand ce sont les jours où je dois faire des reportages, il faut me creuser la tête, trouver des sujets, trouver des invités, les contacter, descendre dans la rue, balader mon micro, voilà, c'est le travail du reporter. Et quand il s'agit d'animer, il faut apprêter les conducteurs, voilà quoi, c'est ça le travail aussi d'animateur, donc c'est un peu ça, comme ça que je meuble mes journées au travail. Mon parcours avant de venir à Radio Okapi, alors j'ai fini les études en 2006. Avant déjà, je travaillais dans une agence de publicité avant de terminer les études. Et juste après mes études, j'ai terminé donc en deuxième session, ça fait quoi, octobre. C'est en janvier que j'étais programmée pour faire un stage à la Radio Okapi, en janvier donc de l'année 2007. Voilà un peu mon parcours avant la Radio Okapi. Ma plus grosse expérience, elle s'est donc constituée ici à la radio. En dehors du travail, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai ma maison qui me prend aussi beaucoup la tête, mes enfants, mon foyer et tout. Mais à part ça, j'ai beaucoup d'activités à l'église où j'encadre les jeunes. Et à part ça, c'est la famille, les visites en famille, un peu de lecture aussi, des séries télévisées que j'aime beaucoup. Donc voilà un peu comment je meuble mon temps en dehors du travail. Mes préférences en matière musicale, bon, je suis beaucoup plus dans le gospel. Mais le sport, c'est pas trop mon fort. D'ailleurs, quand mon mari regarde le match, moi, je somnole au salon. Donc, je suis pas trop sport. En matière de nourriture, bon, faut dire que j'ai pas trop de choix. Ce qui est bien préparé, je mange. Voilà, je pense que je peux dire ça. Concernant mes projets d'avenir, après avoir fait 10 années ici à la Radio Okapi, j'ai vraiment envie de faire un break et puis recommencer d'autres études et peut-être me relancer, si pas dans le domaine de la communication toujours, dans une autre filière, mais j'ai envie de rentrer un peu aux études et acquérir un autre diplôme. Voilà.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Quelques rendez-vous importants à noter dans vos calepins. Le 30 juillet, ce sera la journée internationale de l'amitié. Le 30 juillet toujours, c'est la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains. C'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Alain Goy, à la coordination au reportage Jean-Pierre Elali Coco, au reportage également Honoré Missenga. Ce magazine a été supervisé par Martin Sebujangwe. Je vous l'ai présenté. Je suis Tina Salama. On se dit à très bientôt sur Radio Capi. Bon dimanche chez vous.